grand dialogue
sigi ka foba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud maoune
chenne biri sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du studio Tamani. Nous sommes lundi 10 novembre 2014. Ebola, nous en parlons encore car ce virus inquiète à tous les niveaux. Son combat nécessite une synergie d'action et un dispositif sanitaire important. Quelle est la situation en Afrique de l'Ouest et au Mali? Quelles sont les mesures prises et quel est le dispositif thérapeutique? Autant de questions que nous poserons tout à l'heure aux spécialistes de la question. Professeur Flabou Bougoudogo, spécialiste bactériologie, virologie. Madame Sissoko Massako, point focal surveillance épidémiologique à la Direction régionale de la santé de Kaï, qui sera au téléphone. Et puis nous espérons avoir un témoignage ici, c'est celui d'un parent de personnes mises en quarantaine à Kaï. Il s'agit de Issa Zero. Vous avez Sira Batilo au micro, Salim Diouara et Gaëtan Kanté sont à la technique.
Studio Tamani.
Alors, bienvenue à vous, monsieur, notre spécialiste Flabou Bougoudogo. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Je ne vous apprends rien sur ce virus qui fait des ravages aujourd'hui, mais nous rappelons qu'il a déjà tué près de 5000 personnes. Ce virus fait très peur. Les chiffres varient quant à ses victimes et certains parlent du double. Professeur Bougoudogo, vous qui êtes spécialiste, qu'en est-il exactement d'abord au niveau de l'Afrique de l'Ouest?
Merci. Je crois que les chiffres sont mieux manipulés par les épidémiologistes, mais c'est clair que lorsqu'il y a épidémie, les chiffres qui sont donnés officiellement ne présentent que la partie visible de l'iceberg. Mmh. Vous comprenez que dans nos sociétés, les gens n'ont pas les mêmes moyens d'accès aux soins. Né à l'information, ce qui fait que lorsque il y a des cas suspects ou confirmés ou même des décès, ce n'est qu'une partie, le plus souvent, qui arrive à l'information. Et c'est pour cela que certains disent aujourd'hui que les 5000 morts qui sont déclarés au niveau de notre sous-région, semble constituer peut-être même la moitié de ce qui existe réellement.
D'accord. Et qu'en est-il exactement des chiffres? Est-ce que ce sont ces 5000 qui sont avérés vrais? Ou bien il y a d'autres cas qui ne sont pas encore signalés?
Bon, en épidémiologie, on ne peut que notifier ce qu'on a pu noter, ce qu'on a pu identifier. Et c'est clair que ce sont les cas notifiés, les cas confirmés qui sont effectivement
officiels. Ce sont ces cas qui sont près de 5000.
Voilà, tout à fait. D'accord. Et que ce sont les chiffres, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé nous donne.
D'accord, on va revenir bientôt à vous, professeur. Le temps de faire réagir Mme Sissoko Massako, point focal surveillance épidémiologique à la Direction régionale de la santé de Kaï. Kaï où un cas a été avéré vrai là-bas, la fillette qui est décédée d'Ebola. Alors, Mme Sissoko, bonsoir.
Bonsoir, Madame Bachelet.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis Kaï. Alors, quelle est la situation à Kaï là-bas?
Bon, la situation, bonsoir à tous. La situation quand même est calme à Kaï. Pratiquement, la seule fille où le cas a été confirmé chez elle, elle quand même malheureusement perd à son âme, elle est décédée. Mais les contacts quand même sont en observation pour les 3 semaines. Bon, pour le moment, tous les contacts se portent très bien. Personne n'a présenté aucun signe, aucune symptomatologie en faveur vraiment de cette maladie.
D'accord. Et dans quel état d'esprit sont les Kaïsiens aujourd'hui? Après plus de deux semaines de personnes qui sont mises en observation là-bas.
Bon, pour un départ, vraiment, les gens étaient paniqués. Mais je pense qu'avec la sensibilisation de la population, c'est comme il y avait eu des préalables et les gens quand même ont été informés à travers les médias. Je pense qu'ils avaient beaucoup d'informations. Mais quand le SARS s'est révélé positif à Kaï, je pense qu'il y avait la panique au départ. Mais là, présentement, où je vous parle, franchement, la population vraiment a bien compris, même les rumeurs quand même qui est véhiculée dans la ville de Kaé présentement, les esprits quand même se sont apaisés et puis la sensibilisation continue vraiment pour mieux sensibiliser la population sur vraiment la maladie et sur les mesures de prévention de cette maladie.
Alors,
individuelle et collective.
Alors, dites-nous, le point focal de surveillance épidémiologique, ça existait déjà ou bien ça a été créé lors du cas qui a été révélé à Kaé?
Non, mais en fait, depuis 2005, il y a ce dispositif qui existait au Mali. Le système de surveillance, quand même, était déjà sur place bien avant que cette épidémie ne se joigne ici au Mali. Et le dispositif était fonctionnel également.
Alors, quel rôle vous avez eu à jouer dans l'apaisement des populations? Parce que dans de tels cas, ce n'est pas évident, hein, avec la panique.
Oui, ce n'était pas évident, mais au préalable, quand le cas quand même nous a été notifié et quand on a fait appel à Bamako pour le prélèvement, moi je pense que on s'est rendu vraiment dans la famille et puis les familles voisines, on les a sensibilisés. Qu'est-ce que c'est que la maladie, le mode de contamination? Ça nous a facilité la tâche de répertorier pratiquement tous les contacts, tous les gens qui sont rentrés en contact avec l'enfant depuis son arrivée et puis son départ également à l'hôpital. Je pense qu'ils ont eu vraiment beaucoup d'informations et franchement, c'est le lieu vraiment de saluer vraiment la famille vraiment de la défunte. Et les membres quand même de la famille nous ont vraiment facilité la tâche. Depuis qu'on a reçu le résultat, ils ont été informés. Personne ne les a fait vraiment pression pour qu'ils aillent vraiment à l'hôpital et qu'ils observent vraiment les 3 semaines-là. Ils nous ont vraiment facilité la tâche avec la compréhension. Ça nous a vraiment aidé dans notre tâche, ce que nous faisons.
D'accord. Madame, vous restez avec nous. Professeur Flavo Bogudogo, au Mali, une seule victime jusque-là. On souhaite que ça reste tel. Après près de 2 semaines, plus de 2 semaines de quarantaine, toujours pas de cas avérés. On se pose finalement la question si la fillette avait vraiment le virus Ebola. Qu'en est-il?
La fillette avait absolument le virus Ebola. Mm-hmm. Et elle a été cliniquement diagnostiqué. Ensuite, des prélèvements biologiques analysés au niveau des laboratoires de référence au niveau du Mali ont confirmé, ont bien confirmé qu'il s'agit bien du virus Ebola. Donc la fillette avait bien été contaminée.
Alors, comment expliquer qu'il y ait contact? Dans le cadre de la fillette, l'escale à Bagadadji, le séjour à Kaé, le contact avec tous ces gens dans le car, comment on peut expliquer ça scientifiquement, que le virus n'ait pas attrapé d'autres personnes qui sont entrées en contact avec la fillette décédée?
Vous savez, sur le plan scientifique, l'infection d'un individu sain à partir d'un individu malade n'est pas du tout ou rien. C'est-à-dire que ce n'est pas la transmission d'un malade à un individu sain ne se fait pas généralement à 100%. Mm-hmm. Alors, il y a un effet du hasard. Il y a surtout l'effet de facteurs environnementaux surtout qui interviennent et qui font que au moment où un patient va entrer dans une population donnée, que même si ce patient a le microbe, parce que le virus est un microbe, il se peut que même si ce microbe a été éliminé par le patient, que les conditions physiques ne soient pas favorables à la transmission du virus des produits biologiques du malade aux individus.
Les conditions physiques, qu'est-ce qu'il faut comprendre là?
Alors, il faut comprendre que je voudrais que vous compreniez que l'infection par le virus Ebola entraîne la multiplication du virus dans certains produits biologiques, surtout le sang, et les selles, les vomissures et la sueur. En tout cas, n'importe quel produit biologique du malade peut contenir le virus. Mmh. Et lorsque un individu sain rentre en contact avec, en contact direct, mmh, avec ses échantillons biologiques, mmh, cet individu peut se faire contaminer. Alors, entre l'individu sain et l'individu malade, il y a l'environnement. Mmh. Et pour le cas d'espèce pour le Mali, vous comprenez que le Mali, ce n'est pas la Guinée, le Mali, ce n'est pas la Sierra Leone, le Mali, ce n'est pas le Libéria. Nous n'avons pas forcément les mêmes conditions climatiques. Mmh. Et ce qui fait que là, les scientifiques, il y a peu de choses qui sont encore bien connues, certifiées sur le virus, parce que c'est un virus récent et date de 1976 tout près. Mmh. Donc les connaissances sont limitées. Mais sur le plan de la propagation dans une population, mmh, il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et heureusement pour nous, on peut penser que le Mali a la baraka. En tout cas, vu la contiguïté du Mali avec la Guinée, mm-hmm, d'aucuns pourraient penser que les cas du Mali ne sont pas notifiés ou identifiés. Or, en réalité, nous sommes certains, en tant qu'acteurs du système, mm-hmm, que la situation a bien été contrôlée au Mali. Rappelez-vous que même quand il y a eu le cas positif à Kay, mm-hmm, aussi bien le ministre de la Santé et même le président de la République ont appelé la population au calme. Et ceci, c'était en connaissance de cause, parce que le ministre de la Santé, sachant avoir toutes les informations sur le plan scientifique et technique dans le cadre du contrôle de cette maladie, mm-hmm, savait très bien qu'il ne s'agit pas de paniquer et que il était, sachant l'organisation de son système, la situation était sous contrôle, mm-hmm, depuis avant même l'arrivée de ce cas infecté.
D'accord, on va y revenir dans le troisième volet pour savoir si le cas du la situation s'est vraiment calmée au Mali. Alors, Madame Sissoko Massako, vous êtes avec nous?
Oui. Oui, je suis avec vous. Oui. Je voudrais juste compléter un peu ce que le professeur vient de dire.
Oui.
Ça va vraiment édifier l'auditoire. Et par rapport à cette fille-là, il est à signaler que depuis que la fille a quitté Bamako, mm-hmm, elle n'a pas saigné ni seulement dans le cas, elle n'a pas vomi, elle n'a pas défait également dans le cas. Ça, c'est un aspect très, très important. C'est pour vous dire que les passagers quand même qui étaient dans le car ne sont pas rentrés en contact avec le liquide biologique vraiment de la fille. Ça, c'est un aspect très, très important. Mm-hmm. Et puis, le car que les parents ont apprêté, le car n'était pas du tout rempli. La fille était à côté de sa grand-mère seulement. Il y avait à peu près une quinzaine de places derrière où les gens n'étaient pas vraiment, qui n'étaient pas occupés. Ça, c'est une précision. Ça pourra vraiment édifier les gens davantage.
D'accord. Le professeur veut ajouter quelque chose.
Oui, très bien. Ça, je remercie madame pour avoir donné cette précision. Et ceci m'amène à rappeler aussi que le fait d'avoir voyagé de la Guinée à Kay en traversant certaines parties de Bamako, mm-hmm, ce fait ne suffisait pas pour que la fille puisse éliminer le virus en cours de route, parce que comme vous le savez, mm-hmm, l'infection, ça se développe dans le temps. Elle aurait pu être infectée en Guinée, mm-hmm, et avant de faire sa maladie, donc d'exprimer le virus, elle a dû déjà traverser tout ce monde-là, mm-hmm, avant qu'elle ne devienne contagieuse. Mm-hmm. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on met les gens en quarantaine. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu être contaminée sans avoir exprimé la maladie.
Mm-hmm. Alors, Madame Sissoko, est-ce qu'il y a ce doute qui s'est installé chez les Kaïsiens comme quoi la fillette n'est pas décédée d'Ebola?
Oui, il y avait ce doute-là, mais depuis qu'on a eu la confirmation de Bamako, on les a informés. Avec tout ça, il y avait des rumeurs quand même où les gens doutaient que si c'était vraiment Ebola ou pas. Mm-hmm. Mais depuis qu'on a eu le résultat quand même de ces deux laboratoires quand même de référence, on a donné cette information également à la population et on a eu à organiser une table ronde pour informer la population de cette situation et que ce n'est pas quelque chose quand même qui est inventé, parce que c'est ce que la population disait auparavant. Je pense qu'avec les sondages par-ci, par-là, les gens commencent à comprendre de relais à relais, on donne l'information pour mieux informer la population, donner la bonne information quand même à la population.
D'accord, on va aller en pause juste quelques secondes et nous revenons après.
Ok.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Et oui, vos réactions sont sollicitées sur la page Facebook et le compte Twitter du Studio Tamani. Vous suivez donc le Grand Dialogue via nos 22 radios partenaires. Nous parlons du virus Ebola, la situation en Afrique de l'Ouest et au Mali, les mesures prises au Mali. Professeur Flabou Bougoudogo, spécialiste bactériologie et virologie, spécialiste Ebola en Afrique de l'Ouest. Madame Sissoko Massako, qui est point focal surveillance épidémiologique à la Direction régionale de la santé de Kaye. Nous espérons toujours avoir le témoignage de Issa Zero, qui est parent de personnes mises en quarantaine, qui doit répondre donc à certaines questions dans ce débat. Et nous entamons donc le deuxième point de ce débat. Il s'agit des mesures prises par le Mali. Avant d'y venir, il y a une question quand même qui me tient à cœur, le professeur. Il y a des rumeurs qui courent. On dit que le soleil protège contre Ebola. Qu'en est-il?
Vous savez, si vous avez suivi mon intervention, j'ai parlé d'environnement.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
Bon, la transmission d'un microbe est toujours conditionnée par plusieurs facteurs, dont les conditions climatiques. Mm-hmm. Et vous savez, pour le virus Ebola, la nature, la structure même de ce virus, c'est, pour parler un peu technique, ça, c'est un virus qui est enveloppé, qui a une enveloppe à sa surface. Et mm-hmm. cette enveloppe est très sensible à la dessiccation, à la chaleur, mm-hmm. au dessèchement.
Ouais.
Ce qui fait que dès que le virus se trouve à l'extérieur de l'organisme, dès que cette enveloppe est rompue, le virus est inactif, il ne peut plus contaminer quelqu'un.
Mm-hmm.
Alors, ce qui fait comprendre que pour être contaminé, il faut rentrer en contact immédiat avec les produits biologiques mm-hmm. du malade avant que l'environnement ne puisse mm-hmm. inactiver le virus.
Ouais.
Vous comprenez?
Mm-hmm.
Bon, donc, s'il n'y a pas de contact direct, immédiat avec le patient, même si vous avez été peut-être en contact avec des déjections qui ont séjourné dans l'environnement hostile
mm-hmm.
qui est le nôtre, la chaleur, les vents secs, ce virus, à mon sens, scientifiquement ne peut pas survivre pendant un temps suffisant pour recontaminer des personnes, de proche en proche.
D'accord. Nous en venons donc au deuxième volet de ce débat par rapport aux mesures prises par le Mali. Nous avions invité le ministère de la Santé, mais vu le calendrier du ministre, on n'a pas pu avoir d'invité de ce côté. Mais nous allons nous rabattre sur Madame Sissoko, qui est point focal à Kaye. Madame Sissoko, quelles sont les mesures qui ont été prises sur place à Kaye là-bas?
Cette épidémie à Kaye, comme je l'ai dit tantôt, il y avait des dispositions qui avaient été prises auparavant, mais on a renforcé ces dispositifs-là, notamment le dispositif lavage des mains, et puis d'éviter de se serrer les mains et les accolades, ça quand même, pratiquement à Kaye, même après la mosquée, les gens ne se serrent plus les mains après la prière. Ça quand même, ce sont des mesures quand même que saluons vraiment la population, la population de Kaye. Et en plus de cela, dans les autres régions, la célébration de la journée mondiale de lavage des mains, on a profité vraiment de cette journée pour vraiment sensibiliser le maximum quand même, en plus de ce que nous faisons déjà, de la population sur le lavage des mains, les avantages vraiment de lavage des mains en dehors de l'épidémie Ebola. Et maintenant, il y a un système quand même de tri au niveau de nos structures de santé de façon particulière à l'hôpital Kamil Kousinindao. Pratiquement, tous les visiteurs quand même de l'hôpital sont vraiment contrôlés avant d'accéder à l'hôpital. Même si tu fais 10 jours, tu es toujours, la température est prise à la porte avant que tu ne franchisses vraiment la porte de l'hôpital. Et ce sera valable dans toutes les autres structures sanitaires. Donc, pour mieux renforcer les capacités quand même des agents, vraiment pratiquement tous les agents de santé quand même de la région de Kayeville ou bien de la région de façon générale quand même ont bénéficié d'informations sur la maladie à virus Ebola. Ça, c'est entre autres quand même les grands points quand même que je peux...
Alors, Madame Sissoko, est-ce qu'il y a eu des dons à Kaye là-bas pour aider le Mali? Et quel genre de dons, qui étaient les donateurs?
Bon, il y a une société, la société Rangoul, quand même, a fait un don d'une valeur de 21 millions, si je me souviens, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et il y a eu des commerçants ici, de la place, quand même, qui ont eu à soutenir les contacts en leur donnant quand même des vivres, des savons, d'eau de javel, tout. Mm-hmm. Bon, et l'ordre des pharmaciens également a eu à appuyer vraiment les structures de santé en gamme pour l'utilisation quotidienne vraiment pour les consultations et autres. En plus de ça, il y a eu des dons que je n'ai pas ça en tête. Oui, quand même,
vous n'avez pas tout en tête. Oui. Mais qui gère ces dons-là, madame?
Oui, ici à Caï, c'est au niveau de la direction régionale de la santé, en bonne collaboration avec l'hôpital régional de Caï. Mm-hmm. On a un contact matière. Bon, pratiquement, il y a plusieurs sous-commissions qui sont mises en place pour la gestion vraiment de cette épidémie. Il y a 5 sous-commissions et c'est la sous-commission logistique quand même qui s'occupe vraiment de la gestion vraiment de tous ces dons-là.
D'accord. Professeur Flabou Dougoudogo, vous l'avez entendu, il y a eu des dons, des mesures d'hygiène. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont efficaces aujourd'hui?
Ben, naturellement, je vous ai dit que le virus se transmet essentiellement par contact direct. Mm-hmm. Hein? Il ne faut pas que les gens pensent qu'il fait chaud chez nous, qu'il y a la chaleur et tout, qu'on ne peut pas être contaminé. Mais si vous rentrez en contact direct avec des déjections et de façon immédiate, on peut se faire contaminer parce que le virus passe directement par la peau. Mm-hmm. Alors, donc, ce qui fait que les mesures d'hygiène, les mesures collectives et individuelles sont capitales, mm-hmm. indispensables pour stopper la transmission du virus à travers une population. Mm-hmm. Et à ce sujet, ce n'est pas cas seulement. Je pense que les gens sont focalisés sur le cas de cette petite période, mais je dois vous dire que le ministère de la Santé a mis en place un système de contrôle de cette maladie depuis le début des premiers cas en Guinée. Mm-hmm. Les mesures collective sur le plan d'abord du mouvement des populations, de contrôle aux portes d'entrée et les mesures d'hygiène sur le plan de l'utilisation de d'abord le lavage des mains au savon, au détergent, l'utilisation des détergents.
Je voudrais savoir si ces mesures sont vraiment suffisantes pour lutter efficacement contre Ebola.
Bon, en matière de science, comme je vous l'ai dit, bon, on ne peut. En tout cas, je sais que il y a pas les mesures ne sont pas uniques. Hein, c'est une association de mesures qui font effet complet. Mm-hmm. Mais les plus importantes, les mesures en matière de transmission du virus Ebola, ce sont les mesures d'hygiène qui vraiment viennent en premier lieu mm-hmm. pour stopper la propagation, la transmission du virus des malades au sujet sain. Ça, vraiment, c'est la première mesure. Les mesures d'hygiène sont les premières mesures qu'il faut appliquer avant de faire autre chose. Mmh. Donc, c'est pas suffisant, c'est pas la panacée, mais c'est vraiment la première mesure capitale qu'il faut pour empêcher que le virus passe d'un malade à un individu sain.
Mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter d'autre?
Bon, vous savez, avant de parler de mesures d'hygiène, on sait comment une épidémie se propage dans une population. Mm-hmm. Il faut faire en sorte que lorsque il y a une épidémie dans un pays ou dans le même pays, dans une région donnée d'un pays, que les mouvements des populations soient quand même limités ou contrôlés. Ouais. Entre les zones contaminées et les zones non contaminées. Mmh. Ça, c'est le minimum des choses qu'il faut d'abord faire. Mmh. Et ensuite, ramener aux mesures d'hygiène. Et en ce moment, ce sont les individus qui sont chargés de veiller à leur propre protection en utilisant ces mesures d'hygiène qui sont édictées par les autorités sanitaires.
Et c'est vrai qu'à Caï, le dispositif sanitaire semble important puisqu'un cas a été avéré là-bas. Je me demande si c'est les mêmes dispositions qui sont prises au niveau de Tombouctou, puisque vous avez parlé des dispositions au niveau du ministère de la Santé.
Bon. Je sais que le ministère de la Santé a mis en place un cordon sanitaire depuis le début et a procédé à la formation du personnel de la plupart des structures sanitaires qui sont au front. Mm-hmm. Et je sais que toutes les régions du Mali ont participé à ces différentes formations et du matériel, des équipements de protection ont été fournis systématiquement à ces personnels qui rentrent en contact avec les cas suspects.
D'accord. Madame Sissoko?
Oui.
Le contrôle au niveau des frontières, le professeur en a évoqué tout à l'heure, est très critiqué et c'est là que l'infiltration de personnes atteintes est très facile. Comment ça se passe à Kaï là-bas? Vous n'êtes pas loin de la frontière.
Oui, on n'est pas très loin de la
Mali,
frontière. Mali-Dakar, la frontière à Djibouli, il y a un cordon sanitaire où on fait le contrôle quand même de la température de tous les passagers, que tu sois en moto ou en véhicule ou à pied. Personne ne traverse vraiment la frontière pour rentrer au Mali sans passer par le cordon sanitaire. Les agents sont là-bas et ils procèdent vraiment au contrôle vraiment de la température de tous les passagers quand même de la frontière. Il y a ce dispositif quand même qui est un résultat. Ce n'est pas à Kaï seulement, à Djibouli seulement. On fait frontière avec la Mauritanie. Étant bien donné que la Mauritanie n'est pas vraiment un foyer, mais toutes les frontières quand même, parce que ce dispositif existe à Djibouli également. Du côté du Kenyiba, ce dispositif, le cordon sanitaire existe là-bas au niveau de Mainami, qui fait frontière avec le Sénégal. Bon, bien avant la confirmation vraiment de ce cas-là, à Kaï, ce dispositif-là existait, mais on a renforcé vraiment l'avantage de ce dispositif-là pour vraiment mieux en détecter à temps et puis prendre en charge vraiment les éventuels cas où il y aura des cas quand même suscités par les agents quand même de corps sanitaire.
Le cas en Guinée et en Mauritanie aussi.
Pardon?
Je dis le cas en Mauritanie, parce que Kaï fait frontière avec la Mauritanie et puis la Guinée-Conakry, si je ne me trompe.
La Guinée-Conakry, il faut comprendre que Guinée, on a deux districts sanitaires qui font frontière avec la Guinée directement. Au niveau de ces deux districts frontaliers, il y a 10 aires de santé qui font frontière directe avec la Guinée. Depuis la confirmation vraiment de cette épidémie en Guinée, les dispositions quand même ont été prises vraiment pour la formation vraiment de tous ces agents et leur équipement en protection, en tenue de protection individuelle et le renforcement de leur stock vraiment de médicaments et les produits désinfectants. Ça quand même, ça c'était vraiment depuis le mois de mars, ça c'était déjà fait. La confirmation, on a renforcé vraiment également, on a identifié d'autres aires de santé pour on a identifié d'autres aires de santé quand même qui sont rentrées vraiment dans le même qui aussi disposent vraiment de ces dispositifs là.
Vous voulez dire que les structures d'accueil ne manquent pas de moyens dans ces zones?
Jusqu'à la date d'aujourd'hui quand même, les heures de santé quand même.
On est en train de perdre un peu Madame Sissoko. On va revenir à vous le temps de voir quelques moments avec la technique. Professeur Flabou, alors le contrôle au niveau des frontières est très critiqué. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faut renforcer au niveau des frontières, puisque là c'est sérieux quand même?
Bon, moi personnellement je ne sais pas aux frontières, mais je suis les efforts qui sont fournis par le ministère de la Santé à ce niveau. Je sais que le personnel au niveau des frontières est disponible et formé. Et les dispositions sont prises pour que le personnel formé puisse travailler dans de meilleures conditions pour que des cas n'échappent pas. Surtout les cas suspects, vous savez, on a identifié en fonction des signes beaucoup de cas suspects qui se sont avérés négatifs aux analyses, avant même le cas de Kaï. Bon, ça veut dire qu'à mon sens, la surveillance au niveau des frontières a fonctionné depuis le début de l'épidémie en Guinée et ça continue aujourd'hui. Moi, j'ai confiance que le système de surveillance épidémiologique du Mali est très bon.
Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie est sous contrôle aujourd'hui au Mali?
Bon, peut-être que c'est pas à moi de pouvoir affirmer ça, parce que
c'est vous seulement que j'ai sous la main.
Des voix plus autorité peuvent le dire. Oh, mais oui. Moi, alors mon avis
en tant que spécialiste,
mon avis est surtout scientifique. Mm-hmm. Mon avis se donne en fonction de ce qui est constaté sur le terrain. Hein. Mm-hmm. En tout cas, selon ce que nous avons constaté, que nous voyons aujourd'hui, selon les résultats qui ont été publiés par le ministre de la Santé, mm-hmm. selon les résultats qui sont publiés dans la sous-région, en tout cas, à mon sens, techniquement, on peut considérer que le Mali est en train de contrôler l'épidémie.
Professeur, on va boire un peu d'eau et puis nous revenons après.
Merci.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Et oui, Studio Tamani, c'est aussi le site www.studiotamani.org. Nous faisons un clin d'œil à nos radios partenaires à travers tout le Mali qui se bat contre le virus Ebola. Jusque-là, un seul cas, les mesures prises et le dispositif thérapeutique. Nos spécialistes nous font le point. Nos invités sont donc le professeur Flabou Bogoudogo, spécialiste bactériologie et virologie, madame Sissoko Massako, point focal surveillance épidémiologique à la direction régionale de la santé de Kayo. Dernier axe de ce débat, le dispositif thérapeutique. Avant d'y venir, je voudrais demander à Mme Sissoko, qui est en ligne depuis Kay. Mme Sissoko.
Oui.
Il y a un autre problème qu'on nous signale ici, c'est le retour des personnes qui sont mises en quarantaine au sein de la société. Y a-t-il pas un risque de stigmatisation des populations?
Non, bon, en fait, au départ, comme je l'ai dit, bon, il y avait vraiment ce problème-là, et puis il y avait vraiment des mécontentements par rapport à ça. Mais je pense que depuis 5 jours maintenant, avec la sous-commission mobilisation sociale, vraiment, elle est en train de mener beaucoup d'activités en ce sens-là. Même cet après-midi, le gouverneur a donné le coup d'envoi de la caravane pour préparer la population à recevoir vraiment les contacts qui sont en observation. Je pense que pour le moment, quand même, vraiment, les gens commencent à comprendre et les gens maintenant viennent vers nous pour nous demander d'ampes informations et même les gens prennent visite même à ces contacts-là. C'est ça, c'est un aspect très important.
D'accord. Professeur Flabou Bogoudogo, il n'y a pas de traitement, à ce que je sache, pour l'instant pour Ebola. Le dispositif thérapeutique va-t-il être renforcé avec l'arrivée annoncée des vaccins pour décembre?
Bon, le vaccin, c'est pas le traitement, c'est la prévention.
Oui.
Pour le traitement, si vous avez suivi au niveau international, il y a des gens qui ont été traités avec des sérums. Surtout aux États-Unis. Mm-hmm. Alors donc, un sérum, ça veut dire que c'est un liquide biologique qui contient des anticorps qui neutralisent le virus. Donc ça, c'est préparé à l'avance en laboratoire.
Mm-hmm. Ça, alors, c'est thérapeutique.
Voilà, ça c'est thérapeutique. Mm-hmm. Et ça existe déjà. C'est vrai que sa préparation demande du temps parce qu'il faut immuniser avant d'avoir les anticorps. Ça prend du temps. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui les doses thérapeutiques ne sont pas suffisantes pour prendre en charge tout le monde. Ça, c'est clair. Mm-hmm. Il y a aussi des essais. Je suis au courant qu'en France, par exemple, mm-hmm. à Lyon, il y a des essais thérapeutiques qui sont en train d'utiliser des produits antiviraux, c'est-à-dire des médicaments qui pourraient inactiver le virus. Mm-hmm. Et ça aussi, on attend que des résultats probants puissent être obtenus pour que ces traitements soient généralisés à tous les patients qui en ont besoin. Mm-hmm. Donc, c'est dire pour le moment, si ce n'est pas le traitement des symptômes, des signes qui accompagnent la maladie, comme la fièvre et peut-être le remplacement de certains liquides biologiques, il n'y a pas de traitement spécifique contre Ebola aujourd'hui sur le plan scientifique. Mm-hmm. Mais une maladie, et surtout une épidémie, se contrôle plus facilement par la prévention, par la vaccination. Mmh. Et comme je vous l'ai dit depuis longtemps, c'est une maladie qui est assez récente, qui n'a pas été suffisamment étudiée. Donc il n'existe pas encore de vaccin éprouvé par les expériences pour prévenir contre l'infection. C'est-à-dire que lorsque on vous injecte le vaccin, l'individu développe une défense qui fait que à la prochaine rencontre avec le virus, le virus ne peut pas l'infecter. Mm-hmm. Alors, ce vaccin aujourd'hui n'existe pas encore, mais il est à l'étude. Mm-hmm. Et
mais il y a eu des tests à Kaï, à ce que je sache.
Alors, je vais dire, je viens, ça veut dire que ce vaccin est à l'étude. Et heureusement pour nous, le Mali fait partie des premiers pays au monde aujourd'hui à faire des essais des vaccins, des premiers vaccins qui sont en train peut-être d'être promoteurs. Et vraiment, nous...
Donc, on peut pas s'attendre à des vaccins en décembre, comme annoncé.
Ce n'est pas évident, mais en tout cas, nous avons espoir que les essais du Mali vont aboutir. Et des essais sont faits dans d'autres pays, et dans les pays américains et européens. Et nous comptons que ces vaccins, ces essais soient concluants pour permettre qu'on puisse immuniser à l'avance une population qui serait à risque en cas d'épidémie et que le virus soit empêché de pouvoir se propager dans cette population.
Alors, Madame Sissoko Massako, vous êtes sur place à Kaï, là-bas, point focal surveillance épidémiologique à la DRS de Kaï. Qu'en est-il pour l'essai des vaccins au niveau de Kaï, là-bas, puisque c'est là-bas que ça s'est effectué?
Bon, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet. Ça, je pourrais vous dire.
D'accord. Alors, professeur Bourdougou, les vaccins sont-ils la solution au problème? Comme vous l'avez dit, les vaccins sont préventifs surtout.
Alors, les vaccins, d'abord, les vaccins ne sont pas forcément la solution, mais c'est clair qu'on a beaucoup d'exemples dans le domaine de la bactériologie, de la virologie, que les vaccins, lorsqu'ils sont efficaces et bien conduits, peuvent entraîner même l'élimination d'une maladie sur la Terre. On connaît le cas de la rougeole. On est en train de faire autant pour la polio aujourd'hui. Donc, nous comptons sur les essais de vaccination aujourd'hui pour pouvoir avoir une arme de prévention, voire d'élimination de ces épidémies-là. Mais c'est clair que la vaccination dans nos pays, puisque les vaccins coûtent cher, leur disponibilité n'est pas toujours à souhait, puis ces vaccinations ne puissent pas être les seuls outils à utiliser pour lutter contre une épidémie comme celle de Ebola. Il faut insister sur les comportements humains et les dispositions d'hygiène publique, d'hygiène collective et individuelle pour stopper une épidémie de ce genre.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les moyens des bailleurs sont à la hauteur par rapport à la disponibilité des vaccins?
Bon, moi, je ne suis pas au fait de ces appuis, mais bon, je sais que la communauté internationale, bon, ça, c'est, nous avons des informations à travers vous-même, à travers la presse, que vraiment, il y a des barres de fonds qui sont vraiment assez généreux, qui sont en train d'aider les pays qui sont à risque pour pouvoir prendre en charge tout cela. Et bien, donc, nous espérons que les moyens seront suffisants pour qu'on puisse avoir tous les outils qu'il faut pour lutter contre cette épidémie-là.
D'accord. Madame Sissoko Massako. Madame Sissoko, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Selon vous, vous qui êtes point focal, sur quoi aujourd'hui le Mali doit se baser pour lutter efficacement contre Ebola?
Bon, l'expérience de Kaï, quand même, je pense que c'est le maillon incontournable quand même, le noyau principal quand même vraiment, c'est de poursuivre la sensibilisation de la population et puis édicter vraiment les mesures d'hygiène, les mesures de prévention d'hygiène individuelle et collective et puis le renforcement vraiment des capacités des agents sur place. Ça quand même, ça va beaucoup nous aider et puis le renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, pas au niveau des structures sanitaires seulement, même dans la communauté, c'est très très important parce que c'est quand même peut vraiment nous aider vraiment à détecter précocement, on ne sait pas que Dieu nous en garde, mais à détecter précocement vraiment les suspects et puis vraiment faire une bonne prise en charge vraiment de ces cas-là où ça s'avérait vraiment positif, on ne le sait pas.
Alors, selon vous, les vaccins sont la solution au problème du virus Ebola aujourd'hui? Quelle appréciation vous en faites?
Bon, le vaccin est toujours vraiment le bienvenu en la matière. Mais bon, avant qu'on ait vraiment le vaccin, parce que ce n'est pas une question de jour, je passe sous le contrôle vraiment du professeur. Bon, ça, je ne peux pas trop m'aventurer sur ça.
On veut votre avis quand même en tant que point focal.
Oui, ça peut être une solution quand même pour le pays. Ça, on l'espère bien vraiment, qu'un jour qu'on ait vraiment ce vaccin-là. Mais en attendant, quand même, on peut vraiment, ce qui existe déjà, c'est de renforcer ce dispositif-là, la surveillance quand même à tous les niveaux, et le renforcement vraiment des capacités, de le respect vraiment des mesures d'hygiène individuelle et collective. Et que tout le monde soit vraiment en veille par rapport à la détection des cas. Ce n'est pas pour dénoncer qui que ce soit, mais à travers les signes, si on constate quelque chose quand même et des signes en faveur vraiment de cette maladie, comme les gens ont l'information, vraiment d'alerter le plus vite quand même le centre, le personnel de santé le plus proche quand même pour y faire face vraiment à ce cas-là.
Alors, Madame Sissoko, le point focal des projets dans ce sens, dans les jours à venir, que comptez-vous faire dans ce sens?
Bon, en ce sens, c'est toujours vraiment les mêmes activités. Les mêmes activités dans le cadre spécifique quand même de Ebola. C'est toujours la poursuite vraiment des formations et la sensibilisation avec la sous-commission mobilisation sociale. Pour le moment quand même, c'est les mêmes activités que je compte quand même mener pour le moment.
C'est destiné à combien de localités, par exemple à Kaï là-bas, ces activités? Vous êtes sur place à Kaïville seulement ou vous vous déplacez?
Non, je suis sur place à Kaïville, mais le 8 districts sanitaires de Kaï, quand même, au moins si je passe je fais 10 jours quand même sur le terrain, dans au moins 2 districts sanitaires par mois. Voilà. Et il y a ça c'est à Kaï ici, comme je suis au niveau de la région, mais il faudrait comprendre par là qu'au niveau de chaque district sanitaire, il existe un point focal sur l'évidence épidémiologique. Voilà.
Alors, professeur Bourdogo, vous l'avez évoqué tantôt. Est-ce que le vaccin sera disponible comme le demande la CEDEAO, par exemple, pour tout le monde?
Nous espérons bien. Si les essais sont concluants et que on démontrait que ce vaccin est efficace pour protéger contre la propagation des épidémies, moi j'ai confiance que les partenaires vont nous aider à le rendre disponible pour nos populations. Mais comme madame l'a si bien dit, le vaccin c'est pas la panacée, il faut encore insister sur les comportements humains et les mesures d'hygiène, les mesures collectives et individuelles.
D'accord. Et sur quoi le Mali peut se baser pour lutter efficacement contre le virus Ebola? On va terminer sur ça, professeur.
Écoutez. Bon, je crois que je disais tout à l'heure que le système de surveillance épidémiologique du Mali est très efficace. Parce que pour lutter contre une maladie due à un microbe, pour prendre en charge une maladie, il faut d'abord la diagnostiquer. Et dans le cas d'espèces, dans le cas du virus Ebola, vous savez, le diagnostic clinique, ça va détecter les signes, la fièvre, les diarrhées, les vomissements et tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut confirmer le cas par la biologie. Et je vous assure que dès le début, des premiers cas suspects qui sont venus de la Guinée, le Mali, en collaboration avec les partenaires, surtout aux États-Unis, à Lyon, je suis le coordinateur d'un réseau, du réseau malien qu'on appelle Resaolab, et qui travaille beaucoup avec la Fondation Mérieux à Lyon. Donc, le dispositif de laboratoire pour la confirmation des cas, parce que pour dire qu'il y a épidémie, il faut vraiment confirmer le cas au laboratoire. On ne peut pas se limiter seulement aux signes cliniques. Et le dispositif de détection, de confirmation de la maladie a été mis en place très tôt. Et avant, le Mali n'était pas capable de faire même correctement les prélèvements, de faire l'analyse au laboratoire et de confirmer les cas. Et avec la collaboration et les formations aujourd'hui, enfin, tous les cas peuvent être confirmés sur place à Bamako dans des laboratoires spécialisés. Au centre Mérieux, à l'INRSP, au CENAM et surtout à CEREPO, à la faculté de médecine. Et nous avons, nous continuons la collaboration avec nos partenaires qui nous ont formés à ce diagnostic assez rapide. Et lorsque nous diagnostiquons des cas, nous envoyons des cas de contrôle de qualité, des échantillons de contrôle de qualité pour nous assurer que nous ne nous sommes pas trompés. Et Dieu merci, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les cas qui ont été diagnostiqués et surtout confirmés négatifs au Mali ont été aussi confirmés négatifs par nos partenaires américains et français.
Merci professeur pour toutes ces informations. Nous remercions aussi Madame Sissoko Massako, point focal surveillance épidémiologique qui intervenait depuis Akai. Nous sommes donc au terme de cette émission consacrée au virus Ebola, les dispositions prises par les autorités maliennes. Professeur Flavou Bougoudougo, spécialiste bactériologie et virologie, Madame Sissoko Massako, point focal surveillance épidémiologique à la direction régionale de la santé de Kai, ont répondu à nos questions. Nous espérons que vous avez eu un intérêt pour ce numéro qui vous a été présenté par Sira Batili, réalisé par Ousmane Diadjetouré et mis en onde par Salim Djouara et Gagny Kanté. Merci de nous avoir prêté attention. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.